Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Siroc, l'émission sur la migration en mer Méditerranée des premières 7 du lycée tiers de classe d'espagnol. Aujourd'hui, on parlera cinéma, puis foot, et pas seulement. Nous découvrirons ensemble un film qui a fait des ravages en Espagne récemment. Je parle bien sûr du film Méditerranéo. Nous parlerons après, dans une seconde partie d'émission, du club Alma de Africa, qui est, vous allez voir, bien plus qu'un club. Vous l'aurez compris, nous vous parlerons donc tout au long de cette émission de la migration en français et en espagnol. Alors pour les non-initiés, sortez vos traducteurs. Pour l'instant, nous retrouvons SOS Méditerranée avec Claudine et Morgane, deux membres de l'association. Bonjour, comment allez-vous ?
Bonjour.
Bonjour, bonjour, très bien.
Je laisse place à Maëlys qui va plus nous préciser ce qu'est réellement SOS Méditerranée avant de retrouver Juliette pour notre interview.
Hola queridos oyentes. Hoy vamos a presentarles a SOS Méditerranée. Es una asociación de búsqueda y salvamento en alta mar, aliada de la Croix Rouge y el Croissant Rouge. Fue creada el 9 de mayo de 2015 por los ciudadanos. De todas las rutas de exilio del mundo, el mar Mediterráneo es la ruta migratoria más mortífera del mundo. Desde 2014 hasta 2019, más de 18.000 personas han muerto en este mar. La misión de la asociación es ayudar a todas las personas en peligro en el Mediterráneo, sin discriminación. Basada en el respeto y el ser humano, su misión es también dar testimonio de la situación en el mar. SOS Méditerranée funciona en el régimen de autoayuda. Reúne voluntarios comprometidos de publicar en su página web un cuaderno de bitácora en forma de crónicas. Contiene su visión de las operaciones de rescate en el mar a diario. Por término medio, una día en el mar cuesta 14.000 euros. La asociación se esfuerza por sensibilizar a las escuelas, colegios y institutos sobre la tragedia de la migración en el mar. En 4 años se han reunido más de 32.000 estudiantes. Hablan en particular de la ley marítima que obligan a todos aquel que viera a personas en peligro de naufragio a hacer todo lo posible por rescatarlas. Pero la existencia del rescate en el mar no será un incentivo para emigrar a Europa. Según la OIM, hay un aumento en el número de salidas, así como el número de ahogados. La reducción del número de rescates solo tiene una consecuencia, el aumento del número de ahogados. Por lo tanto, hoy en día, el principal objetivo de SOS Méditerranée es para conseguir un número menos catastrófico de ahogados y un número de víctimas menos catastrófico. Para ellos, hemos optado por invitarles a que los destaquen.
Merci Maëlys pour ces infos. Nous laissons place maintenant à l'interview de nos invités par Juliette.
Bonjour, je retrouve Claudine. Vous Bonjour. Êtes membre de l'association SOS Méditerranée, vous êtes bénévole. Donc expliquez-nous votre rôle dans l'association.
Alors, l'association SOS Méditerranée en France a 650 bénévoles. À Marseille, nous sommes 180 et notre mission, c'est le témoignage. Donc on peut témoigner de différentes façons. En fait, c'est partager l'expérience de sauvetage sur le bateau avec différents publics. Donc moi, ma mission, c'est essentiellement de partager avec les élèves et les étudiants. Voilà, comme aujourd'hui ici au lycée Thiers.
Parfait. Et du coup, Morgane, vous êtes salariée. Mm-hmm. Quel est votre rôle dans l'association, du coup ?
Alors, moi, je suis chargée de communication numérique, donc au siège de l'association à Marseille. Et après, j'ai fait ce qu'on appelle la chargée de communication à bord de l'Ocean Viking, qui est notre navire de sauvetage, il y a un an. Et donc ça, ce rôle-là, il est assez, on va dire, important, parce que c'est lui qui va relayer toutes les informations du bateau, qui proviennent du bateau, à terre. Et alors, SOS Méditerranée, il est présent en France, mais on est aussi en Italie, en Suisse et en Allemagne. Donc ce navire, en fait, il est financé par des citoyens, comme vous et moi, et on part en mer faire des missions de sauvetage. Et le but du chargé de communication à bord, en fait, c'est de relayer tout ce qui va se passer sur ce bateau à terre. Et donc d'en informer, puisque la Méditerranée centrale, je ne sais pas si vous vous y êtes déjà allé. Non. Ben voilà, c'est quand même une zone assez particulière. Il s'y passe des drames, comme vous avez pu l'entendre. Et le but, eh ben, c'est d'en informer en temps réel tout ce qui s'y passe.
Merci. Et donc, du coup, je vous pose la question. Je pense que vous pouvez répondre l'une après l'autre. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler dans cette association ou d'en faire partie ?
Eh bien, moi, en fait, j'ai un petit peu voyagé pas mal en dehors de la France. Et disons que j'ai eu l'opportunité un peu de voir... différentes situations et de se rendre compte que les personnes en fait font les choix de partir de chez elles pour beaucoup de raisons, on va dire, différentes, et que au final on n'est pas à même de juger en fait ces raisons-là. Mais par contre, quand on apprend ce qui se passe aux portes de l'Europe, je trouvais que c'était très pertinent de pouvoir participer à, de manière citoyenne, on va dire, même si aujourd'hui je suis salariée. Il y a énormément de bénévoles qui le font, donc de manière bénévole. Mais en tout cas, pour moi, c'était important de apporter un peu ma pierre à l'édifice, en tout cas du côté de la solidarité. Et en mer, je trouve qu'il y a vraiment aussi une notion de solidarité des gens de mer, c'est-à-dire qu'on va porter secours à toute personne sans condition. On ne va pas vouloir vous demander vous êtes d'où, est-ce que vous avez vos papiers, vous avez quel âge. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est le côté humanitaire aussi de on va sauver, on va porter secours à une personne sans savoir d'où elle provient, pourquoi elle est là où elle est, etc.
Claudine, pourquoi vous avez eu envie de faire partie de l'association ?
Alors c'est un peu à la fois des hasards et des raisons personnelles. Je suis arrivée à Marseille il y a 4 ans, Marseille à la mer, et j'ai entendu un peu par hasard des lectures, puisqu'il y a des bénévoles de SOS Méditerranée qui font des lectures de témoignages recueillis sur le bateau. Et ces lectures m'ont beaucoup marquée, et surtout ont fait écho à des situations personnelles, puisque j'ai des beaux-parents qui ont dû traverser l'Europe au moment de la guerre, et que j'ai une belle-fille qui est malienne, et qui aussi, voilà. Donc c'est résonance, et je me suis dit que cette cause était vraiment très très importante. Je suis aussi sensible au monde des marins et à cette solidarité maritime. Voilà.
Merci beaucoup. Et donc, est-ce que vous pensez qu'avec les moyens de l'association aujourd'hui, vous êtes assez équipé pour porter le secours nécessaire aux personnes en mer, perdues justement ?
C'est difficile de se prétendre à la hauteur pour pouvoir répondre à toutes les situations de détresse en mer. On a un navire, donc déjà, on est limité, on va dire, à ce niveau-là, en fait. Hein. On peut pas c'est 14 000 euros par jour pour pouvoir affréter ce navire. Alors l'affrètement, ça veut dire qu'on loue, c'est-à-dire qu'on n'est pas propriétaire, on affrète le navire. Donc ça aussi, c'est ce qui explique le coût de 14 000 euros par jour. Pour autant, on est en mer depuis 5 ans et on peut dire qu'il y a quand même une expérience maritime qui s'est faite petit à petit. Et donc aujourd'hui, je ne pense pas qu'on ait la prétention de dire on va pouvoir sauver toutes les personnes qui se noient en mer. Mais en tout cas, le but, c'est d'être le plus possible présent en mer pour pouvoir apporter notre aide quand on peut le faire. Malheureusement, parfois, et c'est arrivé, on arrive trop tard. Les personnes, on ne les trouve plus. Et ça arrive.
Vous avez parlé de coûts, en effet ça coûte beaucoup et c'est pas que dans le bateau. Est-ce que vous voyez d'autres endroits où il faut apporter de l'argent au final?
Alors quand on dit 14 000 euros pour le bateau, c'est 14 000 euros aussi pour faire vivre tout le monde. Hein. Le bateau, ça aussi intègre les salariés qui sont à terre, c'est-à-dire que pour pouvoir fonctionner, il nous faut 14 000 euros par jour. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que c'est depuis la création, ce sont essentiellement des citoyens qui contribuent à ces 14 000 euros par jour. Et c'est la grosse force de l'association, c'est qu'on est une association citoyenne et 80% de nos bénéfices viennent, enfin de notre budget vient de dons, et en particulier de dons de particuliers qui ne sont pas forcément des grands dons. Il y a des dons qui peuvent être de 5 euros. On a à peu près 40 000 personnes qui contribuent régulièrement à alimenter les finances de SOS Méditerranée.
Est-ce que vous trouvez que l'existence en fait d'un secours dans la mer Méditerranée, ça pousse à l'immigration ?
Alors c'est une question assez pertinente. Ça s'appelle l'appel d'air. C'est à partir du moment en fait où on part du principe qu'il y ait des moyens en fait de sauvetage, ça pousse les gens à partir. Alors le souci de ça en fait, ben c'est que c'est pas forcément vrai, puisque d'avoir été à bord en fait et de discuter avec les personnes à qui l'on porte secours, c'est là où on se rend compte pourquoi elles font ce choix de traverser. Et on se rend compte en fait que ces personnes-là, elles fuient un pays, et ce pays s'appelle la Libye. Et de ce qu'elles nous racontent, de toutes ces personnes qui décident de nous livrer un petit peu leurs histoires, y a un contexte extrêmement violent là-bas. Et en fait, ces personnes-là, elles décident pas du jour au lendemain en fait, de quitter leur pays et de prendre un navire, un petit canot, parce que quand je parle de canot et que je parle pas de navire, c'est justement pour faire la différence, c'est que c'est des bouts de caoutchouc qui sont d'une épaisseur de quelques millimètres, avec parfois des chambres à air pour faire office de gilet de sauvetage. Donc déjà, tu te rends compte qu'en fait, c'est pas ce que nous, on a l'habitude de voir, en fait. Et que pour qu'elles fassent ce choix-là de monter à bord, des fois avec des enfants, des fois c'est des femmes enceintes, tu te dis, ben, elles doivent quand même être dans une situation de détresse assez, assez importante pour faire ce choix-là, de monter sur ces canaux-là. Et donc ça, c'est une première raison. Donc c'est qu'elles fuient un danger qui est lié à l'endroit où elles sont, qui s'appelle la Libye. Elles fuient des viols, elles fuient des tortures, elles fuient... Ça, c'est des choses qu'on nous raconte. Et en fait, c'est pas juste prendre la mer pour traverser et se retrouver en Europe. Ces personnes-là décrivent aussi le fait qu'elles cherchaient à fuir un danger, et ce danger, il est en Libye. Donc, pour moi, c'est pas parce qu'il y a des sauvetages qui sont mis en place, ces personnes-là, des fois, ne sont même pas au courant, en fait. Hein. Elles cherchent juste à partir. Et il y en a nombreuses sont des personnes qui nous disent « Je préfère trouver l'amour en mer qu'en Libye ».
Il y a aussi des personnes qui n'avaient pas du tout le projet d'aller en Europe en partant, puisqu'en fait, les gens ont l'habitude de passer d'un pays africain à l'autre pour travailler, et surtout, il y a une tradition d'aller en Libye pour trouver du travail. Et à un moment donné, eh bien, la situation, comme le dit Morgane, est tellement insupportable qu'ils partent, alors que ce n'était pas leur projet initial.
Et c'est du coup, c'est une question de vie ou de mort.
Absolument.
Aujourd'hui, on est dans un contexte de campagne présidentielle, où on a un candidat à la présidentielle du coup qui veut arrêter l'immigration et réduire l'immigration à zéro. Est-ce que vous pensez que vous devrez cesser vos actions s'il est élu ?
C'est pas le but.
Je crois qu'en fait, notre force, c'est qu'on s'inscrit dans le cadre du droit maritime international qui dit que voilà, on doit porter secours aux gens en détresse en mer. Donc nous sommes dans un cadre, et Morgane peut en parler, parce que sur le bateau, on relaie sans arrêt les informations pour prouver qu'on est toujours dans le cadre. Donc on est dans un cadre juridique. Après, la seule question qui peut se poser, c'est si à un moment donné, les ports sont fermés, ce qui a déjà été le cas lorsque l'extrême droite était au pouvoir en Italie. On a fermé les ports, ça c'est plus compliqué. Mais de toute façon, les gens continueront à partir.
Mais comment vous faites dans ces moments où les ports sont fermés, par exemple ? Qu'est-ce que vous essayez de...
Alors, en fait, ça fait aussi partie du droit maritime. Donc on doit porter secours à toute personne en détresse en mer. Mais ça implique aussi de les ramener en lieu sûr. Aujourd'hui... on nous dit le lieu, parfois, c'est de les ramener en Libye. Et là, on explique, parce qu'il y a différents textes, c'est pas que nous qui le disons, hein, c'est les Nations Unies, etc., qui préconisent que, en fait, la Libye n'est pas un lieu sûr par rapport au contexte qui est celui qui est à l'heure actuelle, c'est-à-dire guerre civile, viol, torture au quotidien. Donc ce pays n'est pas considéré comme un lieu sûr, donc c'est à nous de voir... c'est pas nous qui prenons la décision de ramener les personnes, en fait, et qui choisissons le lieu où on va les ramener. Là aussi, c'est les autorités en fait, maritimes qui nous disent, on vous demande de les débarquer à tel endroit. Et là, voilà, c'est là où parfois ça peut prendre du temps, en fait. Parfois, c'est 4 jours, parfois c'est une semaine, parfois c'en est 2. Et il faut se rappeler que ces personnes-là, elles ont quand même eu un parcours très éprouvant. Certaines d'entre elles sont blessées de balles, par torture, etc. Et là, on leur demande d'attendre encore plus, des jours et des jours, à bord d'un navire. Alors certes, sur ce navire, déjà, elles ont une once de sécurité et de refuge pour pouvoir ne serait-ce que se reposer, reprendre des forces, dormir, manger, boire. Mais en attendant, il faut pouvoir les débarquer. Et ça, malheureusement, ça peut prendre du temps. Et c'est comme l'expliquait Claudine, c'est arrivé de temps en temps, régulièrement même, sur une certaine période, d'attendre des périodes assez longues. Mais dans tous les cas... On doit pouvoir les débarquer, c'est ce qui arrive à chaque fois. On finit par les débarquer dans un lieu sûr, jamais en Libye.
En parlant de ports fermés, donc il y a une fois, sur notre précédent bateau, l'Aquarius, où en fait, il a été impossible de débarquer en Italie. Donc on a dû aller débarquer en Espagne, à Valence. Et il y avait 600 personnes à bord. Et donc ça a pris un temps très important et surtout on a dû être accompagné par des bateaux militaires parce que nous ne pouvions pas en sécurité traverser toute la Méditerranée. Donc ça c'est arrivé une fois, mais ça pourrait arriver à nouveau.
Et là pour te donner un exemple très concret, l'Ocean Viking était en mer la semaine dernière. Nous avons fait un sauvetage d'environ 200 personnes. Donc c'était le sauvetage du 24 et le sauvetage du 25 mars. Ces personnes, on a pu les débarquer à Augusta, donc en Sicile. Et ça, c'est les autorités du pays qui nous ont dit, à peu près une semaine après les sauvetages, voilà, on vous demande, on vous donne l'autorisation de débarquer à tel endroit. Mais on n'ira jamais, en fait, sans qu'on nous donne l'autorisation. C'est important de le préciser parce que ça aussi, c'est en respect du droit. Et on n'y va pas comme ça juste parce qu'on a décidé. Non, on attend que les autorités nous donnent la possibilité de le faire.
Et justement, du coup, vous l'avez dit tout à l'heure, pour montrer que vous respectez ce droit, vous faites de la communication en fait, avec la terre ferme. Vous avez toutes les deux des rôles qui sont liés à la communication. Pourquoi est-ce que vous trouvez que c'est important de diffuser au maximum les témoignages ou les actions de SOS Méditerranée ?
Ça fait partie de la mission de témoignage, mais je vais laisser Claudine en parler.
Oui, donc en fait, depuis le début, il y a toujours des journalistes à bord, parce que témoigner, nous avons trois missions, sauver, protéger et témoigner. Et témoigner, c'est une mission aussi importante que les deux premières, puisqu'il est important de faire savoir. Si nous ne relayons pas ces informations, eh bien, les gens oublieraient que d'autres personnes sont en train de mourir en mer. Donc cette mission-là, elle est vraiment fondamentale. Et dans le témoignage, il n'y a pas seulement le fait de partager une information, mais il y a le fait que ces gens qui vont recevoir cette information vont eux-mêmes pouvoir la partager. Et on a aussi un axe important qui est notre comité de soutien. Nous avons une centaine de personnes de tous horizons qui en fait portent notre message, qui sont des écrivains, des chanteurs, des journalistes, des intellectuels et qui dans leur vie quotidienne partagent. Par exemple, Gaël Faye, quand il fait un concert, il parle toujours de nous et il dit toujours que c'est important de nous soutenir. Il y a des écrivains comme Laurent Godet ou Daniel Pénac qui parlent de nous lorsqu'ils sont interviewés. Donc tous ces relais différents sont vraiment fondamentaux pour remplir cette mission de témoignage.
Merci beaucoup SOS Méditerranée d'être venu et d'avoir répondu présent à notre appel. Merci beaucoup.
Merci à vous. Au plaisir. Au revoir.
Merci beaucoup Claudine et Morgane pour votre témoignage et pour votre présence ici aujourd'hui. Et j'aurais une petite question pour vous. Est-ce que vous avez vu le film Méditerranéo ?
Alors j'en ai beaucoup entendu parler parce que je crois que c'est sa bande-son qui a été primée. Mais je ne l'ai pas encore vu, non, malheureusement.
Moi aussi. J'aurais bien voulu le voir, mais je pense qu'il n'est pas encore diffusé.
Très bien. Dans ce cas, restez avec nous. Nous allons en parler tout de suite. Mais d'abord, un peu de musique pour détendre l'atmosphère avec Talvez.
Salvamos personas del mal. ¿Por qué cambiamos nuestro tiempo por dinero? Escuchamos pero nos da igual. ¿Por qué cerramos la puerta a los sueños de esa gente que quiere volar? Que vienen muriendo, escapando de la guerra y nosotros viviendo sin más. Tal vez la vida no responda con ganas de amar. Tal vez los sueños se puedan hacer realidad. Somos parte de este mundo y solo queremos la paz. Tal vez la vida nos devuelva.
queriendo gritar, porque las banderas nos marcan el camino y las balas tienen que matar. Ya no se habla de niñas y niños, mujeres y hombres que cruzan el mar, que escapan sufriendo de sus casas, de su sitio, y nosotros viviendo sin más. Tal vez la vida no responda con ganas de amar, tal vez los sueños
Bon retour parmi nous, vous êtes toujours sur Siroc et il est temps de recevoir Ryan, Safa, Myriam et Alex pour nous parler de Méditerranéo. Bonjour à tous.
Bonjour.
Ryan, c'est à toi.
Desde 2014, se han registrado más de 20.000 muertes de inmigrantes en el mar Mediterráneo. La película que vamos a presentar se titula Méditerranéo. Esta película fue estrenada el 1 de octubre de 2011 en España. Dirigida por Marcel Barena, el director pone en escena a numerosos actores famosos como Eduard Fernández, Dani Rovira, Ana Castillo o incluso Sergi López. Esta película nos sumerge en la vida de Oscar Camps, un socorrista que lo dejó todo para convertirse en voluntario en el mar, para ayudar a los migrantes después de haber sido trastornado por la foto de Aylan, un niño kurdo cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en una playa turca. El equipo de Oscar Camps hará todo lo posible para ayudar a los migrantes, en particular recogiéndolos en el mar y proporcionándoles los cuidados necesarios para su supervivencia en sus campamentos. Esta dramática película está basada en una historia real que ocurre en septiembre de 2015. Una gran parte de la historia tiene lugar en Lesbos, Grecia, pero también en Badalona.
Ryan, est-ce que ce film peut être une sorte de documentaire selon toi?
Sí, sí, claro. Esta película podría ser un documental, porque describe el recorrido de la asociación Open Arms, que fue creada por Oscar Camps en octubre de 2015. Esta asociación ayuda enormemente a los refugiados sirios y iraquíes.
Quel est l'avis des spectateurs sur ce film?
Muchas celebridades locales como Tony Ball, Blythe Morrell o Quim Casas reaccionaron después del estreno de la película, pero sus opiniones siguen siendo variadas. En efecto, Quim Casas del periódico de Cataluña ha dicho que es una buena película, pero que minimiza ciertas tensiones reales, mientras que Tony Ball ha encontrado la historia muy hábil y atractiva.
Maintenant, Safa va vous présenter les personnages et leurs acteurs.
Los papeles principales de la película se componen de Oscar Camps, hombre alto con cabello castaño rizado, impulsivo y afectado por la situación, es con su aire decidido, como Oscar es un socorrista de Badalona y personaje principal de la película con un papel fundamental. Es el padre de Esther y conoce algunas tensiones con su hija. Controla el rescate de los refugiados con su equipo de voluntarios y tomar decisiones importantes para cumplir con este acto humanitario. Después, Gerard Canars, comprometido y de confianza, Gerard acompaña a Oscar a varios lugares durante la película. Rescatador con los demás voluntarios y participa en el rescate. Esther, bajita y morena con el pelo largo y rizado, como su padre, es la hija de Oscar Camps y puede estar presente en la vida de su padre, que es el origen de sus tensiones. Sin embargo, ayudará a rescatar refugiados del peligro del mar Mediterráneo. Y el final, Nico, mayor de la película. Pero en el rico, Nico forma el parte del equipo de rescate con Oscar, Esther y Gerard, encargados de la supervivencia de miles de refugiados.
Safa, pourrais-tu nous en apprendre plus sur ce fameux Oscar Camps?
Je vais laisser la parole à Myriam, elle va vous dire plus en détail.
Como dijo Safa, los actores son Eduard Fernández, Dani Rovira, Sergi López y Ana Castillo. Con guión de Daniel Sheff y dirección de Marcel Banera, la película cuenta en su reparto artístico con el personaje principal, que es también el más apreciado, interpretado por el español Eduard Fernández. Dani Rovira haciendo de Gerard en la película, que también es español. Ana Castillo, española, en el papel de Esther, la hija de Oscar. Nico, interpretado por Sergi López, trabajador del equipo de rescate. Sergi es una excepción, ya que es catalán. Cabe destacar que Sergi López apoya las campañas para un referéndum sobre la independencia de Cataluña.
Todos estos actores comienzan con teatro y pequeñas películas hasta llegar a esta obra maestra en 2021. Y aquí están todos ellos nominados y galardonados con premios que los hacen aún mejores. La presencia de mujeres en la película, que tienen papeles más físicos y masculinos, sugiere que puede ser un mensaje al mundo sobre la igualdad de género. En el tráiler de la película Mediterráneo se produce un encuentro entre Esther y su padre Oscar, al que hasta entonces no había conocido. Escuchemos un fragmento.
Merci beaucoup Myriam pour ce petit extrait. Maintenant Alex, dis-nous ce que tu as à nous dire à propos de ce film.
Sí, absolutamente. Esta película trata de una situación actual con mucho realismo. Esto es lo que nos permite, como espectadores, comprender la gravedad de la situación. Nos muestra las malas condiciones de vida de los migrantes, como en esta escena que podemos ver en el tráiler, donde los migrantes están por todas partes en el mar, dispersados por cientos, como una marea humana. Todos gritan pidiendo ayuda. Esta escena nos choca. Podemos ver el desorden y la angustia. Y simpatizamos. Representa muy bien lo que ocurrió el miércoles 24 de noviembre de 2021, cuando 27 migrantes murieron al hundirse su barco en el canal de la Mancha. Se trata de la peor catástrofe de este tipo desde que se generalizaron los cruces de migrantes en 2018.
Et y a-t-il, selon toi, un autre message dans ce film?
Sí, otro mensaje que transmite esta película es el descubrimiento del trabajo de los socorristas en el mar. Son personas que salvan vidas, que dan esperanza, personas que nos inspiran. Y ese es también un punto clave de esta película, empujar a la gente corriente a convertirse en extraordinaria como estos salvadores, inspirarles una pasión y un trabajo. Por ejemplo, el héroe de la vida real de esta película fundó la organización humanitaria Open Arms, que ya ha rescatado más de 6.000 personas con un solo barco. Y vosotros también, queridos oyentes, si estáis interesados en la profesión de salvamento marítimo o si queréis ayudarles haciendo donaciones, sabed que tienen una web, openarms.es, donde se explica todo.
Et aurais-tu un petit mot de fin pour ce film?
Sí, sí, claro. Al final, podemos decir que esta película es una película conmovedora por el mensaje de angustia que transmite al público. La inmigración es uno de nuestros temas más importantes y todo el mundo debería poder participar.
Merci beaucoup à vous, ça m'a vraiment donné envie de voir ce film. Ryan, dis-moi, que sais-tu du détroit de Gibraltar?
Alors, pas grand-chose, hormis le fait qu'il se situe entre l'Espagne et le Maroc.
Tu vas voir, nous n'allons pas tarder à en apprendre bien plus. L'émission continue, ne vous en faites pas. Mais d'abord, une petite pause musicale avec les Papeles Mojados.
Navegan cargados de ilusiones que en la orilla se quedan. Historia del
Bienvenue ou re-bienvenue, nous sommes toujours sur Siroc. Vous venez d'écouter Chambao avec son titre « Papeles Mojados ». J'imagine que tout le monde ici, comme Ryan, connaît le détroit de Gibraltar, ou au moins de nom. Et si vous ne le connaissez pas, ou à peine, vous êtes au bon endroit. Et même si vous pensez le connaître par cœur, Alimatou, Louise, Émile et Wafa vont vous en apprendre beaucoup, croyez-moi.
Osas vamos a hablar de la structure de Gibraltar. ¿Has oído hablar de la structure de Gibraltar par casualidad? Comenzó en la década de 1990. La structure de Gibraltar, margen natural de Europa con África, fue descubierto por primera vez por Ibn Ziyad en 1711. La structure de Gibraltar se encuentra entre España y Marruecos, conectando el Atlántico con el Mediterráneo. Es el punto inicial para los comercios de la inmigración ilegal y todo lo que des extraperlo. Se convierte entonces en un espacio donde el tráfico de Marusia cruza entre Europa, África y América. Con una transición de personas cada vez más intensa que revela los vínculos históricos entre Europa y África. Hay cerca de 100.000 barcos de migrantes al año que circulan entre el Mediterráneo y el Atlántico y que utilizan el estrecho de Gibraltar siendo el lugar más frecuentado del mundo. Barcos que trafican con cigarrillo, alcohol, ropa y otros. La respuesta es enorme para Marruecos. Es en esta zona donde se recluta hoy un día un importante grupo de yihadistas marruecos y españoles, lo que tantas preocupaciones aporta a los servicios de seguridad de ambos países. Ahora, los jóvenes de la zona tienen que elegir entre el narcotráfico, el contrabando o las migraciones para salir adelante. Hoy, el tráfico sigue más que nunca activo.
A bordo del barco Go Fast, generalmente de 4 motores de 650 caballos, los traficantes transportan más de 250 toneladas de droga entre los 14 kilómetros entre Marruecos y España. Esto representa el 80% de la droga consumida en Europa. La policía persigue a los traficantes en helicóptero llamado barco de diligencia que va a 80 kilómetros conduciendo la mayor parte del tiempo al fracaso de los policías secados por los labores de los traficantes. En efecto, la magnitud que genera el tráfico de droga hace que los traficantes tienen ahora más miedo y son más poderosos que los policías. Línea, la ciudad más cercana al estrecho está completamente controlada por los traficantes que prohíben la entrada de las policías y de las fuerzas del orden en la ciudad. No obstante, se realizan miles de detenciones y la policía recupera cientos de toneladas de droga, pero esto sigue siendo una parte infinita del tráfico y no cambia a mucho del final. Se establece todo un sistema muy precioso al minuto y al metro. Todo comienza en el terreno con los vigías llamados puntos. Los mayores de ellos son adolescentes a los que se les paga una miseria, indicar por teléfono la presencia de las fuerzas del orden. España registró una de las mayores legadas a su costa. 599 personas fueron rescatadas en 15 embarcaciones y un moto de mar. El número de migrantes sigue aumentando con 7.600 migrantes desembarcados en España entre enero y julio de 2017.
En el estrecho de Gibraltar, las autoridades están lanzando un contraataque a los narcotraficantes en 2018, con fondos estatales de 2 millones de euros. Esta ha provocado un aumento de las detenciones, pero la situación sigue siendo incontrolable. Tengo el testimonio de uno de los organizadores de este tráfico. Para él, todo tiene un precio, incluso la vida humana. Ser parte del tráfico no le da ningún disminuyendo. Desde el aumento de tráfico, el Estado ha incrementado la vigilancia debido a la inmigración ilegal procedente de África. En 2002, se creó un sistema único de vigilancia costera llamado SAIV, con coste de 106 millones de euros. El país que más migrantes recibe es Grecia, con 11.713.
Merci beaucoup à vous trois. Aux Canaries aussi, le nombre de migrants reste conséquent, tout autant mortel, comme dans les lieux dont nous avons parlé depuis le début de l'émission. Pourquoi et quelles en sont les conséquences? C'est Wafa qui va nous éclairer sur ce sujet. Salut Wafa.
Salut. En Canarias, en el puerto de Guineguín, vemos a más de 15.000 migrantes desde principios de año. Van a cruzar el océano Atlántico con pateras y siendo su destino la puerta sur de Europa. Duermen en condiciones infrahumanas, todos hacinados en el suelo, en tiendas blancas superpobladas. El gobierno busca soluciones, pero en vano. En 2020, unos 4.000 migrantes están en cuarentena a causa del COVID. Un ex migrante, Usama, recuerda su horrible viaje de más de 4 días y su único deseo era seguir viviendo en España. Los inmigrantes vienen todos de África y cada vez hay más cruces entre Senegal y Canarias. Por ejemplo, un senegalés testificó explicando que el motor del barco que lo llevaba en dirección a Europa se incendió, lo que provocó al menos 140 muertos. Son casi 1.500 kilómetros los que separan las costas de Senegal y Canarias, lo que equivale a 7 días de travesía. Pero están renunciando cada vez más porque desde algún tiempo el gobierno español intenta impedir que los inmigrantes de Canarias crucen el continente, lo que empuja a los inmigrantes a tomar caminos mucho más peligrosos. Un camionero dice que un día descubrió a todo un grupo de clandestinos a bordo de un vehículo que se suponía que transportaba carne y alimentos refrigerados. Dice que 4 de ellos estaban escondidos debajo del semi-remorque y podrían haber sido aplastados en cualquier momento o podrían haber quedado totalmente congelados. En resumen, la situación es alarmante y sigue siendo hoy muy preocupante tanto para los migrantes como para las autoridades.
Merci beaucoup, on ressortira de cette émission moins bête. Bien, il est temps pour moi de vous laisser, mais ne bougez surtout pas, un autre animateur, Ryan, prendra ma place. Sur ce, un peu de musique ne nous fera pas de mal.
Debate a la deriva soy, flotando por los mares de su hipocresía voy. Soy ahogado, recorrido eso soy, incomprendidos sentimientos desoídos soy. Soy el llanto de los míos, el sonido del silencio apuntando olvido. Soy la brecha de mi valentía soy, soy la sangre de su economía soy. Soy el callado, el obligado, avergonzado, soy la moneda que utilizarán de cambio soy. Las alertas sonando a los dos lados, me llaman refugiado. Alerta, alerta, alele, 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 alerta, alerta.
Sirio flotando en la playa, ahora di que es populismo esto. Si esperas que el marrón te dé la cara pa' torcer el gesto, no eres libre, solo te han cambiado de celda. Los miedos que te sobran, tu libertad en red alerta. Incalculables penas que me recuerdan que soy un mierda. Si pienso en mis problemas, que no son problemas. Soy el SMS de ayuda, esa vergüenza débil. Hermano de esta tierra muerta por la guerra estéril. Soy el orgullo del lori ganándole al sistema. El sensacionalismo triste en noticias de antena. Soy el que paga el pato por la ambición de un frustrado. Ahora me llaman refugiado.
Perfecta. respuesta. Soy el altavoz de la protesta. Soy el mal o soy el bien. Soy el olvido detrás de la piel. Soy como el viento que nace pero nunca sabes dónde dormiré. Porque soco hoy como un lobo siempre alerta. Soco hoy como un león cuando despierta. Soy el dolor en la mirada. Soy de la gente desterrada. Soy como un barco naufragado. Soy de mar a mar, de lado a lado. Soy el refugiado.
They come fleeing wars and violence. They deserve to live decent lives in freedom, peace and security. Open your doors, open your hearts, help them rebuild their lives. Together we can give hope. Iftah Baybak. Iftah Elbak.
Vous venez actuellement d'écouter Red Alerta de Makako. Eh bien, salut à toutes et à tous. Bienvenue dans la seconde partie de l'émission Web Radio. Ici Ryan pour animer cette seconde partie. Alors, avant de commencer, je tenais quand même à remercier Pierre pour avoir très bien animé la première partie de l'émission. Au programme aujourd'hui, plusieurs thématiques intéressantes seront abordées. On parlera football, on parlera agriculture. Pour finir, on parlera de Moussa. Mais avant toute chose, connaissez-vous Almería? Une région où plus d'un tiers des travailleurs sont sans papier. Aloïs est venu ici pour nous en parler.
Con sus inmensos invernaderos visibles desde el espacio, podríamos decir que la región de Almería, en España, es una mina de frutas y verduras. Hoy nuestra redacción se interesa en el modelo ultraproductivo que explota el medio ambiente durante todo el año y contando con miles de trabajadores explotados. Quizás no lo sepan, pero una gran parte de las frutas y verduras que ocupan las estanterías de nuestros supermercados provienen de una única región, Almería, una mar de plástico que se extiende sobre no menos de 30.000 hectáreas y que, en un contexto de crisis migratoria y de urgencia medioambiental, hace reflexionar sobre una gran cantidad de preguntas políticas y humanistas. Todo comenzó en los años 70, cuando el milagro de Almería surgió con la llegada, en menos de medio siglo, de unos 100.000 migrantes en busca de trabajo. Actualmente, más de 120.000 personas trabajan en el sector agrícola de la región, de las cuales el 92% son inmigrantes. En unas condiciones de trabajo deplorables, estos hombres y mujeres cobran menos de 35 euros al día, sufriendo el calor, los pesticidas y los fertilizantes químicos, desde la mañana hasta la noche. Según el Sindicato Andaluz de Trabajadores, más de uno de cada tres trabajadores está indocumentado. Cuando observamos las condiciones laborales de los trabajadores, no podemos dejar de notar los resultados de la explotación de esta mano de obra que ha aumentado exponencialmente en los últimos 40 años. Así, en el corazón de este desierto blanco se pueden encontrar cultivos de pepinos, judías verdes, calabacinos, pimientos, melones o incluso sandías, pero son también tomates, sobre todo en invierno, cuando la estrella del verano ya no es cultivada fuera de los invernaderos. Por término medio, estas plantas tienen un 80% de agua. Esto hace pensar en el uso de este recurso, especialmente en una región donde las temperaturas rondan los 35 grados cada verano, con solo uno o dos días de lluvia. Sin embargo, en los últimos años ha surgido la agricultura orgánica y ecológica, que contrasta con la imagen de explotación humana y destrucción del medio ambiente. ¿Respeto al medio ambiente o productividad a gran escala? Estos son los dos términos del dilema. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación calcula que, para 2050, la agricultura mundial tendrá que aumentar la producción de alimentos en un 70% para alimentar a 2.300 millones de personas más. Un argumento a favor del modelo almeriense en detrimento de los ecologistas.
Très bien, alors on aura vu grâce à Louis comment est-ce que souffraient les migrants, leurs conditions de travail, mais heureusement, ils peuvent s'intégrer de manière tout autre. C'est ce que nous verrons aujourd'hui grâce à Abdallah, Maïssa et Anan. Bonjour Abdallah, bonjour Maïssa, bonjour Anan. Merci d'être venu nous parler aujourd'hui du club de Armada Africa. Alors, comment sont arrivés les joueurs en Espagne?
Arriesgado su vida para cruzar las fronteras valladas de Ceuta y Melilla desde el continente africano. Apareció en los arrecifes de la costa andaluza tras una traversa en patera. Nunca imagino que forma parte de un equipo de fútbol que disputara un campeonato oficial. Pero un puñado de subsaharianos y norteafricanos han logrado esta hazaña. Todos llegaron sin papeles, sin ingresos. Estos inmigrantes forman el equipo de fútbol Alma de África.
¿Cómo se organiza el club?
Aunque no compite en la Liga con el Real de Madrid o el FC Barcelona, este equipo de Jerez, una gran ciudad de Andalucía, defiende su imagen con un espíritu fuerte. Alma de África, dirigida por Alejandro Benítez, ayuda a sus jugadores en todo lo posible en cuestiones administrativas y profesionales. Muchos se alojan gratuitamente en pisos gestionados por una ONG cercana al club. Todos los jugadores tienen una licencia. Todos los domingos, después de gritar su grito de guerra, corren y sudan delante de un público conquistado. Son animados por una mezcla de inmigrantes y andaluces. El club se fundó en 2013.
¿Puedes nos dire à présent comment s'est créé le club?
Sí. En una barricada de Jerez, la enfermera Kini Rodríguez se encuentra con un grupo de africanos que están ahogando su ociosidad jugando al fútbol en un terreno vacío. Les promete un árbitro y un entrenador. Dos semanas después, cumple su promesa y les presenta a Alejandro Benítez, un veterano de un equipo local de Jerez, ahora presidente del club improvisado Alma de África. Al principio, no creíamos en ello, recuerda Hisham Aidami, un joven marroquí que había cruzado la frontera española en un camión. La frontera española bajo un camión era la forma más peligrosa de entrar en España desde el Magreb. Pero cuando llegaron con todo el equipo, la equipación y los formularios oficiales, sabíamos que era de verdad. Diouf, un delantero senegalés de 21 años, añadió: es difícil enviar dinero en mi familia cada mes, pero al menos puedo decirles que juego en equipo oficial.
Su negocio en Senegal no iba muy bien. Bashir decidió salir a rumbo a España para tener una vida mejor. Inicialmente decidió ir a Marruecos. Su amigo había prometido pasarlo a España por 700 euros. Desapareció con el dinero. A continuación, Bashir intentó unirse a España 3 veces y la tercera fue la vencida. Logró llegar a Tarifa, en Puerto España, donde la Cruz Roja le ayudó a desembarcar antes su mandado a un centro. Luego fue enviado a una prisión en Puerto Real. Más tarde fue trasladado a un gimnasio en Jerez. Después de un mes durmiendo debajo de canastas de baloncesto, Bashir encontró a una familia anfitriona. Le habla de su amor por el fútbol, deporte que practicó en Dakar. Más tarde se unió al equipo de fútbol presidido por Alejandro.
Alma de África es un equipo de fútbol que integra a los inmigrantes y pretende integrar a estos jóvenes entusiastas del fútbol. Las camisetas de los jugadores del equipo llevan inscrito el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a buscar asilo en otros países y a disfrutar de él. Para apoyar esta idea de integración total, el equipo está formado por jóvenes de 12 nacionalidades africanas, desde Marruecos hasta Camerún o Mauritania, y por algunos jugadores españoles o de otras nacionalidades. Los jugadores lucen con orgullo sus camisetas verdes. Alma de África también promueve el acceso al empleo, la asistencia social y la formación y una vida estable y diversificada para los inmigrantes.
Merci à toi, Maïssa. On se retrouve avec Juliette juste après la pause musicale. C'est tout.
¿Dónde vi? Ven, mientras huyen, donde no hay olvido ni por qué, donde el mar escupe los sueños de los que huyen, lo han perdido todo atrás.
Nous venons d'écouter Invisibles de Alain D. Pour cette partie d'émission, je laisse la parole à Aloïs et Juliette. J'ai été très heureux de faire cette émission en votre compagnie. Merci à tous.
Et merci Ryan. Et on va enchaîner donc pour conclure cette émission. On aura pu voir plusieurs manières de s'intégrer de par le sport, de par le travail. Et maintenant, on va aborder avec Juliette un modèle qui s'appelle Moussa et que tu as eu la chance de rencontrer, Juliette.
Oui, je l'ai rencontré tout à l'heure. Donc Moussa, il a vécu de très dures épreuves. Il est parti de chez lui à 11 ans après le décès de son père. Il a été réduit en esclavage. Il a fait la traversée de la Méditerranée et il a été secouru par SOS Méditerranée après. Et il en a a d'ailleurs témoigné en conférence ce matin. Mais dans cette interview, on a voulu se concentrer sur le positif. C'est pour ça qu'on va parler plus de sa vie de maintenant et de son association qu'il a créée.
D'accord, très bien, c'est formidable. Et donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ta rencontre avec lui? Quelle personne c'est? Comment il a réussi à s'intégrer? Est-ce que ça a été fait de manière rapide?
Non, ça n'a pas été fait de manière rapide. Déjà, il a passé 5 ans de voyage pour arriver jusqu'en France. Et ensuite, il faut faire les papiers, tout ça, ça va être compliqué, mais il en parlera mieux que moi, je pense. Mais c'est quelqu'un de très humain, qui sait de quoi il parle, qui a vécu des dures épreuves et qui, aujourd'hui, arrive à se relever et très, très avenant. Donc on va du coup écouter l'interview qu'on a fait tout à l'heure.
Avec plaisir.
Et je vous laisse. Donc bonjour, je me trouve avec Moussa. Moussa, tu as 21 ans, tu es parti de chez toi à 11 ans, tu es parti de Guinée.
Oui.
Tu as fait des bonnes et des mauvaises rencontres qui t'ont amené au Mali,
oui.
Puis ensuite en Libye où tu as vécu une situation déshumanisante, tu as été réduit en esclavage,
oui.
Et après tu as été forcé de partir en bateau par la Méditerranée.
Ouais.
Comment tu as vécu ta traversée?
C'est traumatisant en fait, parce que ça n'a pas été facile et c'est quelque chose de traumatisant en un mot, parce que il y a eu beaucoup de morts et beaucoup de choses aussi qui se sont passées en fait au cours de notre traversée.
D'accord. Et quel est ton ressenti par rapport à la traversée quand tu étais sur le bateau? Qu'est-ce que...
C'était un moment de soulagement, parce que avec tout ce que j'ai vécu pendant des années en fait, et là tu as des personnes qui t'écoutent, qui discutent avec toi, qui te demandent si tu as pas mal et des choses que tu n'as qui t'a cessé d'entendre, je m'excuse, depuis des années. Donc là, il y a quelqu'un en face de toi qui te demande, tu vas bien, tu veux quoi, qu'est-ce qui te fait mal. Donc c'est un moment de soulagement et de souffle aussi.
Et ça, on l'a pas précisé, mais c'est quand tu as été secouru par SOS Méditerranée sur l'océan Viking.
Oui.
Donc ensuite, tu es arrivé sur Terre en Italie.
Oui.
Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as mis le pied à terre?
C'était de... Déjà en changeant de continent, parce que j'ai changé de l'air, je me disais que c'était un changement d'air en fait. Et c'était vraiment, j'étais apaisé et il y avait un côté de soulagement, franchement. Et il y avait quelque chose de... Je me sentais beaucoup mieux et beaucoup bien en fait, mentalement.
Donc l'Italie, c'était pas ta destination finale, t'es arrivé à Marseille.
Oui.
T'as subi encore des épreuves parce que c'est pas... Quand on arrive, on n'est pas au final sauvé. Donc qu'est-ce qui s'est passé à ton arrivée à Marseille?
Arrivé à Marseille, c'est comme toutes les autres. C'est que quand tu viens dans une ville ou dans un pays où tu connais personne, donc tu seras contrainte en fait de des choses comme ça. Parce que j'ai pas... la sensation directe de rencontrer les gens dès mon premier jour ou deuxième jour comme ça, mais par fini ça s'est enchaîné en rencontrant des gens et aussi j'ai eu un parcours pour l'intégration et l'insertion dans la société en fait.
Et comment t'as vécu tes premiers jours?
J'étais un peu impressionné par rapport à la ville, donc à partir de la gare Saint-Charles, je dis, parce que c'est là-bas que je connaissais et j'ai regardé la ville à partir de gare Saint-Charles. Et ce qui m'a beaucoup attiré, parce que j'ai trouvé magnifique la ville. Aussi autour, je voyais aussi la mer qui était de l'autre côté, donc vraiment ça m'a beaucoup marqué de façon positive.
Donc maintenant, tu es installé en France, tu as ton titre de séjour et tu as même fondé une association qui oui. s'appelle Guinée à Marseille.
Oui.
Donc du coup, est-ce que tu peux nous la présenter?
J'ai créé l'association Guinée à Marseille en mai 2021. L'idée de création de l'association est venue parce que je voulais mettre quelque chose en place pour nous les étrangers et aussi les Guinéens en fait en particulier. Et parce que moi j'ai eu des difficultés au niveau de démarches administratives en fait, donc je ne veux pas que vraiment ceux qui viennent derrière moi ou ceux qui viendront aussi, qui puissent avoir ces mêmes difficultés en fait. Parce que il n'y a pas une connaissance administrative sur les démarches administratives guinéennes pour ceux qui sont ici en fait. Donc c'est tout à fait difficile pour eux d'avoir ces accès de documents, des démarches administratives. Donc je me suis dit, vu que moi j'ai galéré pour pouvoir avoir tout ça là, et je connais maintenant le réseau, comment ça marche et comment, à qui il faut contacter quand il y a besoin de tels documents et quand tu as envie de mettre ça en place. Et pourquoi ne pas mettre une association guinéenne sur Marseille? Parce que déjà, on n'a pas une association qui représente les Guinéennes ici. Et c'est là-bas l'idée est venue de mettre l'association en place et pour pouvoir aider les Guinéennes qui viendront à Marseille ici, de les aider et de les accompagner et à faire les démarches administratives. Et aussi les accompagner dans leur insertion dans la vie courante et aussi dans l'accompagnement.
D'accord, parfait. Et du coup, on imagine qu'avoir des papiers, c'est pas simple. Il faut aussi, du coup, là, tu l'as évoqué, mais il faut faire des demandes pas que en France, mais aussi au consulat, par exemple, de Guinée.
Oui, c'est que d'ailleurs, les papiers guinéens, souvent, c'est qu'ils se font au consulat guinéen. C'est pas tous les papiers. Par exemple, ton acte de naissance, tu peux pas le demander à l'ambassade de Guinée en France, en fait. Donc, tu veux ton acte de naissance, il faut que tu demandes en Guinée. Et pour le faire, souvent, nous, on n'a pas des actes de naissance directs. C'est des extraits de naissance qu'on fait pour toi avec le juge qui va aller et les parents qui vont témoigner, en fait, pour ton acte de naissance, qui sera envoyé au ministère des Affaires étrangères, signé et cassetté et tout tamponné, et on t'envoie. Et les documents qu'on peut demander à l'ambassade de Guinée, c'est que c'est la carte consulaire. Mais la carte consulaire, elle-même, ils te le livrent pas si t'as pas un extrait de naissance. Donc, la première des choses qu'il faut faire, il faut toujours repartir de la base, en fait, ce qui est en Guinée, pour demander ton acte de naissance. Et après avoir obtenu ça, et tu viens maintenant demander ta carte consulaire à l'ambassade de Guinée en France. Et pour ce qui est de passeport, ça, on n'en parle pas parce que ça fait maintenant depuis 2016. Ils ont remis en fait le processus en place en disant que voilà, qu'ils vont délivrer les passeports en fait là, l'année fin 2021. Mais sauf que ça a eu beaucoup de problèmes. Et on vient, on va t'enregistrer et tes données, ils vont l'envoyer au pays. Ils vont te faire une carte, c'est-à-dire un passeport et pour te le ramener. Et sauf qu'il y a beaucoup de personnes et qui sont comme moi, qui se sont enregistrées, mais qui n'ont toujours pas reçu leur passeport. Et ça fait 3 ou 4 mois comme ça. D'ailleurs, ils ont même sorti un communiqué en disant que les passeports n'étaient plus disponibles en fait et parce qu'ils n'avaient plus en stock. Donc le problème de passeport, ça, on n'en parle même pas. Et ça nous pose des problèmes aujourd'hui quand on voit dans nos démarches administratives, surtout pour les renouvellements de titres de séjour. C'est la première des choses qu'on te demande, en fait. On te demande ton passeport, et si t'as pas le passeport, souvent il y a des préfectures, des sous-préfectures qui te refusent, en fait, de renouveler ton titre de séjour. Ou on te le renouvelle, mais c'est qu'on te le donne pas parce que t'as pas le passeport.
D'accord. Et on imagine, du coup, le but de l'association, c'est aussi d'aider les jeunes qui peuvent pas forcément comprendre tout ça parce qu'ils sont jeunes, à mieux s'insérer. Et du coup, il y a un système en France aussi qui s'appelle les aides sociales, oui, qui aident les gens à s'insérer au final. Et comment, est-ce que tu sais comment on fait pour les avoir?
Ça, je sais pas, j'ai pas de connaissances sur ces démarches-là, en fait, comment avoir ces aides-là. Et moi, je suis parti de l'idée où j'ai envie d'aider, en fait. Parce que pour aider, je pense que si tu peux pas faire grand chose, fais des petites choses avec grandeur en fait. Donc on n'a pas besoin vraiment d'avoir grandes choses ou avoir beaucoup d'argent pour pouvoir vraiment aider les gens. Aider des gens, c'est le foie en fait. Donc tu peux ne pas avoir vraiment de l'argent ou d'autres choses en fait, mais tu peux quand même aider. Donc tu peux avoir tout et ne pas avoir le cœur d'aider en fait. Donc c'est le cœur qui est en place. Donc moi je suis parti de l'idée pour aider. C'est pas vraiment pour demander de quoi que ce soit. Si j'ai des aides, j'aimerais bien, mais je sais pas comment les demander et j'en ai pas encore fait. Donc j'ai fait quand même les démarches administratives pour ce qui est l'enregistrement de l'association, pour reconnaître quand même que l'association, elle existe au niveau administratif, ça c'est fait. Et pour ce qui est d'aide, on n'a pas encore fait. C'est que tout ce qu'on fait dans l'association, c'est nous-mêmes qui finançons et c'est nous qui essayons de, voilà, de financer les repas qu'on organise, les soirées qu'on organise, les rencontres qu'on fait. C'est tout ce qu'on s'est fait pour le moment dans l'association, c'est que c'est nous-mêmes qui le faisons, sans l'accompagnement de qu'un organisme en place.
On a pris des chiffres donc, qui viennent de France Info. On a trouvé que les aides sociales pour les immigrés étaient de 20,7 milliards d'euros en 2018. Et selon le RN, du coup c'est le Rassemblement National qui est le parti nationaliste de Marine Le Pen aujourd'hui, oui. Ils estiment que 10 à 70 milliards d'euros par an, ce sont les aides sociales pour les migrants. En fait, c'est plutôt 10. Selon l'OCDE, l'immigration, elle coûterait 0,5% de la richesse nationale, soit 10 milliards d'euros par an.
Oui.
Donc, au final, les immigrés ne coûtent pas tant que ça. Et notre but, nous, c'est de montrer qu'on veut déconstruire, en fait, les clichés que les migrants nous coûtent de l'argent aux Français. L'immigration, elle rapporte aussi également 4 milliards d'euros par an. Et donc, on voulait te demander, est-ce que tu as des exemples de personnes qui ont réussi à s'intégrer, par exemple, grâce à ton association ou non, mais dans la vie courante
Ben ouais, il y a des gens qui ont réussi à s'intégrer. C'est que prendre l'exemple sur soi-même, c'est que je pense que c'est pas un mauvais exemple en fait. Ça dépend de ce qui est en fait par rapport à la société. Mais moi, je prendrai l'exemple sur moi. C'est que j'ai réussi en fait avec tout ce que j'ai traversé à m'intégrer aujourd'hui en France et précisément à Marseille en fait. Et j'ai réussi à le faire et je sais que je suis pas la seule personne. Peut-être aujourd'hui, c'est moi qui a la lumière sur moi, mais il y a d'autres personnes qui sont dans l'ombre, qui font plus que moi, en fait, qui n'ont pas cette occasion de passer dans les radios ou s'exprimer, de parler de ça, en fait, mais qui ont réussi à faire ça. C'est que j'ai réussi à faire des études et j'ai eu même un prix de la part de la Légion d'honneur de l'année dernière, c'est-à-dire apprenti militant. J'ai participé aux Olympiades de la jeunesse de la Légion d'honneur. Et c'est que j'ai appris plein de choses sur la France. Ça, c'est mon côté positif, en fait, que je puisse faire avec la France. Et pour ce qui est de travail, depuis à 17 ans, mais 17 ans, j'ai commencé à travailler. Donc, je suis jeune, mais ça fait 4 ans que je travaille, j'ai jamais arrêté, et voilà. Donc, j'ai contribué, et même si j'ai pas de taxes, mais j'ai un appartement que je paye, j'ai des loyers, voilà. Et même pour ce que j'essaie de manger, c'est qu'il y a des taxes en fait. Mais je travaille pour pouvoir avoir ça, c'est que ce n'est pas l'aide de l'État qui fait ça pour moi.
Mais tu l'as dit très bien, tu diffuses beaucoup ton témoignage sur les radios ou en conférence. Et pourquoi est-ce que tu trouves que c'est important de le diffuser autant?
Le faire, c'est que je suis parti du fait que, en parlant de ton propre problème, c'est mieux que quelqu'un parle de ton problème. Parce que toi, tu pourras expliquer le problème, les difficultés que tu as, et ce que tu as vécu, en fait. C'est pas quelque chose que tu as appris par quelqu'un d'autre, en fait. Tu vois, c'est pas une... L'histoire, c'est bien quand c'est raconté par la personne en question. Quand c'est raconté par quelqu'un d'autre, ça fait pas le même effet, comme si c'est la personne en question. Donc, c'est pourquoi je suis parti. Et je rencontre aujourd'hui beaucoup de personnes. Au début, c'était pas quelque chose que je voulais faire. Je vais être honnête, c'est qu'au début, je voulais pas le faire. Mais je suis parti un jour avec SOS Méditerranée, je discutais avec eux, et du coup, les gens, ils ont commencé vraiment à apprécier et à encourager, en fait. Et c'est là-bas, c'est parti. J'ai dit, pourquoi ne pas témoigner? Parce qu'à chaque fois qu'on donne des témoignages, c'est que ça change quand même cette image, cette cliché qu'on a en fait envers nous les immigrés, nous les étrangers qui viennent en fait. Et sauf que deux fois, c'est que quand on vient, c'est pas qu'on est venu pour tout, c'est-à-dire pour s'en prendre à tout ou tout prendre, mais on a nous aussi notre rôle à jouer dans le développement du pays. Et on contribue beaucoup au développement du pays. Donc, faut pas que les gens se focalisent sur ce qu'ils entendent. Mais c'est bien aussi de voir vraiment ce que les gens sont en train de devenir aussi.
Merci beaucoup, Moussa, pour ton témoignage. Merci d'être venu.
Le plaisir est partagé. Merci à vous aussi de m'avoir invité et de m'accueillir à votre beau studio, en fait.
Merci beaucoup.
Merci.
Et au final, on le voit bien avec Moussa qui a eu un parcours très compliqué, qui a réussi à s'en sortir. Malheureusement, pas tout le monde a cette chance. Et on espère que SOS Méditerranée pourra sauver plus de monde.
Absolument, et sur cette belle parole, on va pouvoir conclure cette émission. J'aimerais tout d'abord adresser quelques remerciements, tout d'abord aux membres de SOS Méditerranée pour leur présence, qui est parfois très compliquée. J'aimerais remercier nos camarades chroniqueurs et à la régie également, les merveilleuses Christelle et Tiffany de Web Reporter Martigues pour leur gentillesse et leur professionnalisme, ainsi que le matériel qu'elles nous ont prêté. Plus particulièrement, Madame Pinchenet, Madame Dosière, pour tout le temps consacré à la réalisation de cette émission. Et enfin, Moussa pour son témoignage et son implication dans notre projet. Je vous remercie pour votre écoute et on se dit à une prochaine.